Bonjour et bienvenue à tous sur donc la réserve sans réserve, le podcast de la Garde nationale. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Fougera, qui est la générale secrétaire générale de la Garde nationale.
Bonjour.
Nous avons également le lieutenant-colonel Pierre Anceau, qui est le responsable communication de la Garde nationale.
Voilà, bonjour à toutes et à tous.
Général, comment on peut qualifier la Garde nationale ?
La Garde nationale, c'est un label qui finalement a vocation de coordonner, de regrouper les réserves opérationnelles des différentes composantes, précisément de 10 composantes réparties au sein du ministère des Armées pour 8 d'entre elles et au sein du ministère de l'Intérieur pour 2 d'entre elles. Donc, je vais vous donner quelques références à ces composantes. Aujourd'hui, l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, dispose de réserves opérationnelles, mais aussi les différents services rattachés au ministère des Armées, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la direction générale pour l'armement. Et côté ministère de l'Intérieur, nous retrouvons les réserves opérationnelles à la fois de la gendarmerie nationale, mais aussi la réserve civile de la police nationale.
Très bien. Donc, ça veut dire, en gros, que la Garde nationale englobe, donc, toutes ces réserves. Donc, si je suis, par exemple, réserviste de la gendarmerie ou réserviste de l'armée de terre, je fais partie de la Garde nationale.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce sont 76 000 réservistes qui font partie, qui sont raccrochés à ces différentes composantes, qui finalement, dans le même temps, sont réservistes au sein de la Garde nationale.
Imaginons que donc je veuille m'engager comme réserviste de la Garde nationale. Comment je fais ? Est-ce que je peux souscrire quelque part, m'engager pour la Garde nationale ? Comment ça se passe ?
Pour candidater, parce qu'on a beaucoup de candidats et candidates chaque jour, les choses sont finalement assez simples. Il suffit d'aller sur le site gardenationale.fr qui renverra de manière très simple vers les différentes composantes et les sites de ces composantes qui précisent les modalités d'inscription, tout simplement.
Si donc la Garde nationale m'attire, si je m'engage en Garde nationale, en fait, in fine, je pourrais choisir la gendarmerie, l'armée de l'air, la police.
C'est exactement cela. La Garde nationale offre l'opportunité aux jeunes, parce que c'est eux qui forment la plus grande part des candidats et candidates aujourd'hui, effectivement, de choisir en fonction de leurs appétences, hein, très clairement, et de leur spécialité, qui peut aussi intéresser soit les forces armées, soit les forces de gendarmerie ou de police.
En fait, la Garde nationale est une porte d'entrée.
Exactement, exactement. Et c'est bien son rôle, je crois, effectivement, puisque les réserves existaient avant que la Garde nationale ne soit créée. Donc, finalement, la Garde nationale ne vient pas écraser ou faire disparaître ces composantes que je appellerais spécialités, mais simplement s'insérer au-dessus et en faciliter l'accès et la cohésion.
Juste peut-être pour ceux qui seraient candidats à la réserve, ce qu'il est important, c'est déjà de faire le choix d'un engagement et ensuite le choix de sa composante de rattachement. Et souvent, on s'aperçoit chez nos candidats que, en fait, ce choix de composante, il s'impose pour des raisons à la fois familiales, parfois professionnelles, par rapport à un parcours de vie bien personnel. Donc, quelqu'un qui va être attiré par l'armée de terre ne va pas forcément l'être par la réserve de la gendarmerie et inversement. Ce qu'il faut, c'est laisser le choix d'engagement, mais après le choix de la composante de rattachement et c'est essentiel.
Est-ce qu'on peut citer d'autres types de missions que des réservistes peuvent être amenés à effectuer au sein des différentes composantes ? Par exemple, pour la gendarmerie générale, quelles sont les missions types du réserviste ?
Alors, les missions confiées aux réservistes sont les mêmes que celles confiées au personnel d'active. La seule chose qui différencie aujourd'hui un personnel d'active d'un réserviste, c'est finalement la durée de son engagement. Un personnel d'active va servir 365 jours par an. Un personnel de la réserve va servir en moyenne 32 jours par an. Donc, la composante qu'il a choisie véritablement au démarrage. Alors, pour la gendarmerie, les missions, finalement, sont exactement les mêmes que celles des personnels d'active. Je pense notamment à l'ensemble des réservistes qui, aujourd'hui, sont répartis sur le territoire national et qui renforcent les unités, les brigades notamment, en matière de sécurité publique. Donc aujourd'hui, lorsque vous croisez une patrouille de gendarmerie sur le territoire, personne n'est en capacité de dire si elle est composée de militaires d'actifs exclusivement ou finalement d'un mixte entre des militaires d'actifs et des militaires de réserve, voire même dans certaines situations, parce que ça existe aussi, si elle est composée uniquement de personnel de la réserve. Donc c'est véritablement ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les missions des réservistes sont les mêmes que celles qui sont confiées au personnel d'actifs et aux unités d'actifs.
Donc on parlait des gendarmes, mais c'est également le cas pour toutes les autres composantes, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale.
Je défie quiconque de faire la différence dans les rues de nos grandes villes ou plus petites de soldats de l'opération Sentinelle entre un soldat de l'armée d'active et un soldat de réserve. Même tenue, même armement, même formation.
En général, on parle d'intégration, mais on peut aussi parler de complémentarité. Quelle est la vocation de la réserve? On parle de la montée de monte en puissance de la réserve, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, la réserve, bien sûr, a pour objet de renforcer l'active sur l'ensemble des missions, mais véritablement l'atout qu'a la réserve, c'est qu'elle apporte de la différence et de la complémentarité. Aujourd'hui, lorsque les forces armées ont besoin d'expertise en quelque sorte, quand elles ne disposent pas de cette expertise au sein de leur propre force, elles font appel aussi parfois à des réservistes. Et là, on a véritablement une différence, une expertise propre à l'un ou l'autre, parce que dans le civil, l'intéressé exerce une activité très ciblée et très technique. Chaque force armée peut faire appel aussi à la réserve pour compléter en quelque sorte son potentiel et compléter son expertise dans certains domaines. C'est ce qui aujourd'hui a vraiment du sens aussi, en tout cas pour les employeurs, que sont les chefs d'état-major, les directeurs de la gendarmerie et de la police nationale en règle générale. Aujourd'hui, la réserve apporte un complément, la réserve apporte de la différence, et chaque responsable vous dirait que finalement, aujourd'hui, les forces armées ne peuvent plus faire sans cet apport de ressources complémentaires au travers de la réserve opérationnelle. Et pour les entreprises, c'est toujours très intéressant d'avoir des salariés qui sont formés à d'autres sur d'autres périmètres. Et je pense que là, c'est vraiment la complémentarité, la différence qui enrichit les uns et les autres.
Voilà, je pense qu'effectivement, c'est ça. Il y a une complémentarité très très intéressante pour l'employeur, puisque le réserviste va acquérir des savoir-faire différents, et puis surtout, j'ai envie de dire, des savoir-être aussi. Qui sont à chaque fois plébiscités. Donc c'est vraiment une belle plus-value.
Il y a des possibilités pour tous les niveaux de diplôme. Il y a des conditions d'âge peut-être?
17-40 ans, je pense qu'on peut partir là-dessus.
Hommes et femmes?
Évidemment.
Forcément.
Et c'est intéressant d'amener cette remarque, puisque au sein de la Garde nationale, 20% des 76 000 réservistes sont des femmes.
Il y voit aussi un intérêt pécuniaire, il y a un intérêt financier à faire la réserve. En général, un réserviste opérationnel est rémunéré, c'est ça?
Alors, le réserviste opérationnel perçoit une solde au 30e finalement d'un mois, en fonction du nombre de jours qu'il va effectuer. Et cette solde, elle est équivalente à la solde du militaire d'active. Elle est fonction aussi du grade détenu, donc comme dans l'active. Et de ce fait, le réserviste opérationnel a cet apport sur le plan financier qui n'est pas négligeable.
Donc, vous dites que le réserviste perçoit la même solde que celle du militaire d'active. En fait, c'est une solde à la journée.
Voilà, le 30e d'un mois, en fait.
La solde dépend du grade. Et ce que les gens ne connaissent pas, ou très peu, c'est qu'on peut faire carrière comme réserviste au sein de la Garde nationale. Et ça, c'est méconnu. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme militaire du rang et gravir les échelons. On peut commencer comme sous-officier, gravir les échelons. Et on peut commencer comme officier et gravir les échelons dans la catégorie des officiers. Et ça, au-delà de l'aspect financier, on a des milliers de réservistes qui sont engagés depuis des années, qui donc, en interne, ont passé des examens parce que c'est comme ça que ça se passe, des formations supplémentaires au gré du temps et de leur disponibilité, et ont augmenté en grade. Qui dit augmenter en grade et dit augmenter en responsabilité. Donc on a des gens qui ont commencé comme simples matelots ou aviateurs ou gendarmes et puis qui aujourd'hui sont adjudants, lieutenants, capitaines et peuvent et même et on a un cas pour l'armée de terre, un colonel qui commande un régiment de 600 réservistes, hein, cas unique en France. Donc et c'est quelqu'un qui réserviste, il a un métier dans le civil.
Donc on peut faire carrière dans la réserve.
Bien sûr, et puis là, je crois que c'est vrai, enfin je trouve ça vraiment à la fois attractif, intéressant et limite passionnant de savoir que je peux, en fonction, c'est ce déroulement de carrière, il va au rythme de chacun et chacune, parce que chacun a son rythme de travail dans le privé, avec son employeur, etc. Donc ça ira plus ou moins vite, mais il y a cette possibilité de faire une carrière, une deuxième carrière finalement. On fait une carrière au sein de sa vie privée, voilà. Et puis une carrière comme réserviste. Enfin, je trouve ça assez bluffant, moi.
L'avantage d'aller aujourd'hui recruter des candidats à la réserve parmi la jeunesse, c'est justement la possibilité, comme le disait le lieutenant-colonel Anceau, c'est de véritablement offrir des parcours dans la réserve, des parcours qui vont durer sur plusieurs dizaines d'années si les intéressés le souhaitent. Mais c'est aussi quelque part une façon pour les forces armées de fidéliser dans le temps ces jeunes. Aujourd'hui, les forces armées ont besoin de fidéliser leurs réservistes de façon à leur offrir des parcours. Et l'objectif, c'est d'aller capter dès le plus jeune, finalement dès 17 ans, le maximum de réservistes pour inscrire les intéressés dans la durée et pour faire bénéficier aux forces armées de cet apport véritablement d'expertise dans la durée aussi de la part de chaque réserviste.
Si on devait résumer nos échanges, la Garde nationale, donc c'est une entité hein, qui rassemble tous les réservistes.
Oui.
76 000 réservistes aujourd'hui.
Voilà.
En tout cas, merci pour ce premier épisode.
Premier épisode.
Et donc, à très bientôt pour La Réserve sans réserve.
Sans réserve.